L'association SOLFA, Solidarité Femmes Accueil, a été fondée en 1947 pour accompagner les femmes qui sortaient de prison et de camp. Aujourd'hui, l'association compte trois pôles, un pôle hébergement, insertion et responsabilisation des auteurs de violences conjugales, un pôle protection de l'enfance et un pôle violences faites aux femmes. De l'accueil à la sensibilisation, l'accompagnement, l'échange et au soutien, le travail de l'association est complet entre prévention, action et réaction. Rencontre le mardi 21 décembre avec Delphine Beauvais, directrice du pôle violences faites aux femmes de l'association SOLFA.
Le pôle violences faites aux femmes et nombre d'autres associations évidemment sur le territoire national se sont vraiment organisées en tentant de développer pour nous les trois pierres angulaires qui peut-être un jour amèneront à l'éradication des violences faites aux femmes. La question de la protection des victimes, des femmes, des enfants, la question de la responsabilisation, voire de la répréhension des auteurs, et enfin la question de la prévention. Parce qu'on pourra protéger, on pourra responsabiliser, mais si on ne prévient pas, notamment dès le plus jeune âge, on ne parviendra pas à éradiquer la question des violences. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la prévention est trop insuffisamment pris en charge et trop insuffisamment développé par manque de temps, par manque de moyens, par manque de volonté aussi, de certaines communes, établissements, de certains politiques, de certains estimant que la prévention finalement n'est qu'un ajout un peu supplémentaire, alors que sans prévention, on ne parviendra pas à arrêter le cadre des violences. Alors, les chiffres, ils sont complexes à croiser parce que vous avez des chiffres qui émanent des associations, vous avez des chiffres qui émanent de collectifs, vous avez des chiffres qui émanent des gendarmeries, de la police, de la justice, etc. Ce qu'on sait aujourd'hui de manière sûre et certaine, c'est que le Nord, comme le Pas-de-Calais d'ailleurs, enfin, 3e et 4e sont les 3e et 4e départements les plus touchés par la question des violences, après Paris et la Seine-Saint-Denis, que le Nord est le premier département concerné par des féminicides, sur les féminicides qui ont été recensés sur 2019 et qui sont en train d'être recensés également sur 2020-2021. Donc on reste une région, la région des Hauts-de-France, particulièrement touchée et particulièrement sensible sur la question des violences.
Mais comment est-ce qu'on l'explique ça ?
Comment on l'explique ? C'est une question très pertinente. Comment on l'explique ? J'ai pas envie de l'expliquer avec des facteurs culturels, parce que ce serait trop réducteur et trop restrictif. Il est vraiment important de sortir un peu de cette représentation commune qui amènerait à penser que les violences, c'est l'apanage de milieux précarisés, c'est l'apanage de personnes qui consomment de l'alcool ou des toxiques ou qui sont au RSA, etc. Non, pas du tout. Déjà, il est indispensable de rappeler que les violences faites aux femmes, ça concerne toutes les catégories sociales, professionnelles, tout âge, toute religion, toute culture. Voilà, il n'y a pas, c'est pas l'apanage d'une population. Pourquoi le Nord et pourquoi le Pas-de-Calais ? Je pense que d'abord il y a une densité de population qui est importante et qui amène effectivement à une mise en lumière et à une révélation de situations qui sont extrêmement problématiques. Il y a des difficultés sociales. Voilà, qui sont présentes et qu'on ne peut nier. Il y a la question de tant de la ruralité que de la densité urbaine aussi qui amène à. Il y a la question aussi de la présence des associations et de la mobilisation des partenaires qui viennent aussi mettre en exergue des situations de violence. Donc je pense que l'ensemble de ces faits conjugués fait que, effectivement, on peut avoir un département qui, malheureusement, a une très 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 mauvaise place sur la question des violences faites aux femmes.
Vous avez parlé des féminicides, mais avant ça, à partir de quel moment on parle de violence ? C'est quoi une violence, en fait ?
Alors, c'est quoi une violence ? Alors déjà, il est à rappeler que, notamment dans le cadre des violences conjugales, qui reste une des premières formes de violence infligées aux femmes, je rappelle que c'est 1 femme sur 10 en France, 1 femme sur 5 en Europe, tout d'abord, on a différentes formes de violence. On a évidemment les violences physiques, finalement, qui sont les plus identifiables, les plus repérables, qui amènent à l'usage de termes aujourd'hui qu'il faut éradiquer de notre vocabulaire qui sont les femmes battues, parce que ça ne revêt qu'une forme de violence, ça n'est pas l'intégralité des femmes qui sont victimes de violences physiques. Et finalement, et je me permets de dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est des choses que les femmes nous renvoient régulièrement, c'est peut-être la forme de violence qui reste la moins inscrite dans le corps de la femme et dans son parcours de femme victime de violence. Néanmoins, évidemment, je ne minimise pas du tout les violences physiques, mais en tout cas, il est important de ne pas se centrer uniquement là-dessus. Donc, vous avez la question des violences physiques, vous avez la question des violences psychologiques. 100% des femmes victimes de violences sont victimes de violences psychologiques. Et c'est ces violences qui abîment. Vous avez les violences verbales, qui peuvent être effectivement extrêmement dégradantes, humiliantes, répétées, et qui de toute façon s'inscrivent dans le cadre des violences psychologiques. Les violences économiques, qu'on va exercer à l'encontre d'une femme en lui supprimant par exemple la possibilité d'accéder à son propre compte, à un chéquier, à une carte bleue, d'avoir même accès à une quelconque forme de liquidité monétaire, et donc qui entrave fortement évidemment la liberté et le fait de ne pas être dépositaire de l'autre et donc de ne pas être en domination, de ne pas être sous la domination de l'autre. Les violences administratives, comment est-ce qu'on empêche une femme d'accéder à ses droits, comment on lui supprime une carte d'identité, un passeport, un titre de séjour, comment est-ce qu'on efface tout rendez-vous par exemple à la préfecture pour ne pas qu'une femme puisse renouveler une carte de séjour ou un titre d'identité. Donc les violences sont multiples. Aujourd'hui, une nouvelle forme de violence s'ajoute à ça. Il s'agit des violences autour du cyberharcèlement et des violences numériques, dont on parle peu finalement encore, mais qui sont extrêmement prégnantes, notamment avec la question des traceurs pour quelque part surveiller et anticiper les moindres faits et gestes de la femme.
Si les féminicides ont diminué en 2020 suite à la baisse des séparations conjugales liées à la crise sanitaire, le huis clos familial renforcé a entraîné une hausse des violences importantes. Plusieurs réponses ont été apportées, des financements étatiques et locaux, des dispositifs, des points d'écoute, mais cela reste un nouveau défi pour l'association Solfa qui veille à la protection des femmes. Fin 2021, celle-ci a également ouvert un centre d'accueil pour les jeunes mineurs prostituées, un sujet encore difficilement abordé et dont il est complexe de connaître les chiffres et la réalité. Là encore, l'important relève de la prévention et de la compréhension.
Personne, que ce soit en tant que parent ou en tant que citoyen, n'a envie de penser que des jeunes filles de 13, 14, 15 ans sont entrées dans un système prostitutionnel, sont soumises à ces violences physiques, sexuelles, psychologiques, propres à l'estime de soi. Alors parfois on a des raccourcis qui sont extrêmement réducteur, qui est de dire bah voilà, une jeune fille qui se prostitue, de toute façon c'est un accès à l'argent facile. Ouais, ok, ça c'est c'est un acte, c'est un fait. Par contre, dans quoi s'inscrit ce processus relatif à la prostitution? Qu'est-ce qui amène aujourd'hui des jeunes filles de manière moindre des jeunes garçons, mais il y en a également, à avoir recours à la prostitution? Je pense que ça dépasse largement la question de l'argent facile. C'est qu'est-ce qui amène à un moment donné dans la structuration d'un enfant, dans son éducation, dans sa structuration psychique, dans son rapport au corps, dans son vécu aussi traumatique autour de d'une intrusion, dans son intimité, dans sa corporalité, etc. Qu'est-ce qui amène ces jeunes filles et ces jeunes garçons à avoir recours à la question de la prostitution, avec évidemment tous ceux qui en retirent un large bénéfice et un large usage, c'est-à-dire les réseaux, les MAC, parfois les membres de la famille, parfois le conjoint ou le petit ami. Donc il y a vraiment quelque chose effectivement à travailler et à prendre en charge sur cette question.
On a parlé des mineurs au sujet de la prostitution, mais est-ce que les mineurs aussi sont touchés grandement par les violences faites aux femmes, et est-ce que les hommes qui sont aussi mineurs sont acteurs de ces violences aussi?
Alors effectivement, vous avez parfaitement raison. On dénombre, on remarque, on observe malheureusement de plus en plus de violences dans le cadre d'une conjugalité, sans forcément passer par un mariage, un pacte, une vie à deux dans la même maison, etc. Mais en tout cas, de jeunes couples qui se construisent autour d'une relation qui peut être extrêmement préjudiciable, dangereuse, nocive pour ces jeunes filles, avec vraiment une dynamique d'auteur et de victime qui se met en place très très rapidement. Des jeunes filles qui passent la porte de nos accueils de jour notamment, ou dont on échange avec les conseils du les services du conseil départemental autour de la protection de l'enfance, avec des jeunes filles de 13, 14, 15 ans qui, dans la première relation de couple, sont victimes de violences conjugales. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Il y a évidemment la vulnérabilité de ces jeunes filles. Il y a un rapport, pour moi, au corps, à la domination masculine, à l'image de la femme, à la sexualisation du corps de la femme, qui est complètement délirant, notamment chez des jeunes garçons, avec une représentation qui est totalement galvaudée. Et j'avoue que le développement de la pornographie et l'accès à la pornographie n'aident absolument pas sur ces sujets et sur la question de la question du consentement, la question du plaisir, la question de la place de l'homme et de la femme, ou de deux jeunes femmes ou de deux jeunes hommes dans une relation équilibrée, équitable, etc. Et enfin, nous, c'est un phénomène qui nous préoccupe fortement, la question des violences dans les très jeunes couples.
Pourtant, on a l'impression, notamment avec les réseaux sociaux, que cette sensibilisation, elle se fait quand même de plus en plus.
Ben, en fait, c'est tout le paradoxe des réseaux sociaux ou des outils de communication actuels, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant accès à l'information, on n'a jamais eu autant accès aussi rapidement à une transmission d'informations qu'on souhaite transmettre à l'autre, donc de par les réseaux. Et finalement, cette accélération de l'information, finalement, nous permet de saisir ce qu'on a envie de saisir. Et que la question notamment de la prévention des violences, la prévention des comportements sexistes, l'égalité filles-garçons, etc., qui elle vient toucher dans les réseaux sociaux et dans les médias ? Elle vient toucher des jeunes qui sont sensibilisés, qui sont avertis, qui se sont déjà posé ces questions parce qu'on leur a déjà posé, qui en ont déjà entendu parler et qui, quelque part, vont développer une forme de curiosité ou d'appétence pour aller voir. Par contre, le flot de propos discriminants, homophobes, transphobes, de domination masculine, de marchandisation du corps de la femme, ils sont accessibles partout, pour tous, tout le temps. Avec, en plus, la question de la dynamique de groupe, la question de l'influence, la question de, voilà, c'est quoi aujourd'hui être un homme, c'est quoi être un bonhomme, c'est quoi être finalement reconnu par ses pairs dans une forme de prédominance et de discours parfois complètement exacerbé et parfois complètement démesuré. Et donc, oui, évidemment que les réseaux sociaux peuvent être une source de transmission et de communication intéressante, mais pour moi, c'est le travail des établissements scolaires, c'est le travail de la société, c'est le travail des parents, c'est le travail aussi autour de la publicité, autour des médias, autour de l'accès, finalement, à cette information. Enfin, c'est une véritable conscientisation et démarche sociétale qui doit s'opérer. Tout peut pas reposer sur les réseaux sociaux, c'est pas possible.
Accompagner davantage les mineurs, voici l'un des nouveaux défis de Solfa pour 2022. Il s'agira aussi de repenser la question des femmes en ruralité, d'aller à la rencontre de ceux qui s'interrogent sur ces questions et enfin de poursuivre la prévention, l'accompagnement autour de la parentalité. Le 21 décembre dernier, Delphine Beauvais, directrice du pôle violence faites aux femmes de Solfa et également administratrice de la Fédération nationale de solidarité femmes, qui gère le 3919, tient justement à rappeler à tous l'importance de ce dispositif téléphonique face à toutes ces situations difficiles. Pour en savoir plus ou pour contacter Solfa, rendez-vous en ligne ou sur les réseaux sociaux. Un reportage réalisé par Manon Soren pour RPL Radio. Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.